Mesdames et messieurs, je vous remercie d'être si nombreux ce soir à la présentation par Leslie Kaplan de Millefeuille. Je remercie la librairie Mola de nous accueillir en cette galerie et je vous indique comment les choses vont se passer. Pendant à peu près une demi-heure, je vais avoir le plaisir de dialoguer avec Madame Kaplan et ensuite nous nous tournerons vers vous. La salle pourra intervenir, poser des questions, réagir, dialoguer avec l'écrivaine. Madame, je tiens à vous dire que c'est la première fois que nous nous rencontrons. Je suis absolument ravi de le faire parce que votre premier livre, L'Excès-l'usine, oui, m'avait beaucoup impressionné. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir être le modérateur de cette soirée. Votre livre Millefeuille ne m'a pas laissé indifférent. Alors peut-être parce que je commence à être un vieux monsieur, que je suis professeur comme votre personnage, et que je me pose, comme votre personnage, un certain nombre de questions quant à la paternité, quant à l'identité, qui suis-je, que fais-je de ma vie, et puis quant à l'issue de cette existence qui nous attend tous. Alors, je voudrais vous demander comment vous êtes arrivé à inventer ce personnage, qui est donc un professeur à la retraite, qui vit dans un bon quartier de Paris, qui a une vie, somme toute, assez confortable, qui est passionné par la culture, la littérature. Il est en train de travailler, il écrit un article consacré au roi dans et chez Shakespeare. Et puis, dans sa vie, dans ses rapports avec les autres, y compris avec ses proches, pas seulement avec les inconnus, il y a un certain nombre de choses qui, soudainement, l'irritent. C'est quelqu'un qui se met en colère, qui est furieux, qui est traversé par un excès de colère. Alors comment en êtes-vous arrivé à inventer ce personnage et à lui donner cette silhouette, cette assiette psychologique ?
Écoutez, là, c'est une question peut-être à laquelle je vais avoir vraiment du mal à répondre, parce que, d'une certaine façon, Millefeuille s'est présenté à moi comme un bloc, voilà. Finalement, mais peut-être c'est un peu toujours comme ça que ça se passe, et je me suis dit comment je vais arriver à l'écrire, à mettre des mots là-dessus. Alors je pense que j'avais dans la tête, et ça, ça doit être, vous avez employé tout à l'heure le mot collage, un certain nombre d'éléments qui se sont mis ensemble, et ça a donné ce personnage. Et je me suis dit, voilà, comment on peut en parler ? Comment on peut parler de lui, en fait ? Donc, en fait, c'est pas tellement comment j'en suis arrivée à l'inventer. Bon, comme c'est dit au début, bien sûr, j'avais perdu mon père, bon, comme la narratrice. Mais à part ça, je crois que c'est vraiment... j'ai travaillé avec des éléments que j'avais pu observer ou qui me tenaient à cœur. Voilà, en fait, c'est un peu venu comme ça.
Je suis tenté de vous dire, vous et moi, nous avons connu des Millefeuille, voilà, quand nous étions jeunes. Voilà. Des vieux professeurs qui nous accueillaient, qui discutaient avec nous. Nous en avons connu plusieurs. J'imagine que en inventant votre personnage, vous avez songé à certaines figures rencontrées.
Certainement. Et en même temps, je pense que je me suis concentrée sur certains aspects de, disons, ces vieux professeurs, puisque vraiment, dès le départ, je n'avais pas envie de faire un livre sur la vieillesse. J'avais envie de faire un livre sur un homme vieux qui se bagarre pour vivre, c'est-à-dire vraiment pour rester vivant, on pourrait même dire rester parmi les vivants. Alors, il est devant la mort, comme nous tous, mais en fait, lui, c'est vraiment ce qu'il veut, c'est jusqu'au bout être vivant.
Il s'y prend mal quand même de temps en temps.
Oui.
Parce qu'il est brutal.
Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, il y a beaucoup de loupés dans sa vie, y compris dans le moment particulier que le livre traverse. Beaucoup de loupés, beaucoup de ratés, même graves. Très graves. Mais n'empêche.
Alors, justement, peut-être pour le public, vous avez été lu, mais l'assistance dans son entièreté n'a pas forcément lu votre roman, pas encore votre roman. C'est un personnage qui s'interroge dans son rapport avec son fils en tant que père.
Oui.
Son fils s'appelle Jean, et en permanence, ce fils le déçoit. Du point de vue du personnage, il est déçu par son fils,
oui, tout à fait.
Lequel émet un jugement très sévère à plusieurs reprises.
Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que son rapport avec son fils, ça fait sûrement partie des ratés dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, mais on ne saura pas très bien exactement comment ça s'est passé, qui a été loupé. C'est-à-dire qu'il y a, comme vous dites, le fils le déçoit. En même temps, peut-être, il n'est pas très ouvert à ce qui intéresse son fils. Bon, enfin, il y a quand même les deux aspects. Et pour anticiper, je dirais que c'est peut-être un peu comme ça avec d'autres jeunes gens qu'il rencontre, justement, ou qu'il a, bon, alors des anciens élèves qu'il invite, où on sent à la fois, enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai voulu, une grande ambivalence. À la fois, ça l'intéresse, vraiment, bon, il est, voilà, il parle avec eux, il les soutient, il les nourrit, et puis, à un moment donné, quelque chose fait qu'il ne veut plus trop en entendre parler.
Alors justement, il y a une sorte d'oscillation du personnage à l'endroit des autres. Dans ses rencontres, dans ses discussions, dans ses observations, souvent il y a le syntagme qui revient très fréquemment sous votre plume. Millefeuille dit « c'est intéressant ».
Oui, oui.
Et puis ce qui lui a semblé intéressant, assez rapidement ou avec davantage de temps, ne l'intéresse plus. C'est intéressant.
Oui.
Il y a une sorte de mouvement un peu comme le Forda. Ça m'intéresse, ça ne m'intéresse plus.
Ben, c'est-à-dire que le « c'est intéressant », c'est à la fois ça l'intéresse vraiment et en même temps c'est une façon de tenir les choses un peu à distance. C'est-à-dire que c'est tout de même une sorte de généralité. C'est intéressant. Et puis on en reste là. Alors ça, je pense que c'est à la fois, d'une certaine façon, le propre de ce personnage qui, bon, quand même, disons, à la fois s'engage, mais peut-être pas jusqu'où il pourrait s'engager. Et en même temps, ça c'est vrai, mais alors, c'est moi qui le vois comme ça, c'est peut-être quelque chose qui est lié à la culture en général, à notre humanisme en général, c'est-à-dire que tout est intéressant et puis ça va jusqu'où, ça, on ne sait pas, c'est-à-dire.
Votre roman s'ouvre sur un propos qui est tenu par une narratrice, laquelle présente à votre personnage, Millefeuille, deux jeunes gens, Léo et Zoé.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous parler de la relation qui va se nouer entre Léo, Zoé, surtout Léo et Millefeuille, il y a de l'écrit entre eux.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, bon, d'une certaine façon, d'ailleurs ça a été suggéré tout à l'heure, Léo a un aspect où il est un peu un double jeune de Millefeuille. Léo est un jeune homme qui est professeur, débutant, et qui écrit. Et effectivement, donc, il a des éléments qui sont très semblables à ceux de Millefeuille. En même temps, donc Millefeuille l'encourage, est très content. Léo est très vivant, joyeux, enthousiaste, etc. Et bon, à un moment donné, quelque chose se bloque pour Millefeuille. Il n'arrive pas à lire un chapitre que Léo lui a donné, qui est pourtant extrêmement important. Enfin, cette lecture par Millefeuille de son chapitre est évidemment très important pour le jeune Léo qui voit en Millefeuille, entre guillemets, un maître ou quelqu'un qui pourrait vraiment l'apprécier. Et Léo attend, et rien ne se passe. Bon, et ça, c'est... ça, c'est quelque chose qui j'ai mis là, évidemment, c'est pas par hasard, mais disons que je trouve que c'est un petit peu, pour Millefeuille, un raté du point de vue de la transmission, c'est-à-dire qu'on attend de lui quelque chose et il ne le fait pas. Bon, ça m'a semblé possible et, à vrai dire, pertinent pour le personnage. Voilà.
Alors, vous m'incitez à venir sur un autre aspect qui est très important dans votre roman, c'est le problème de la parole, parole que l'on donne et que la parole qu'on n'arrive pas à tenir.
Oui.
Ce qui va être le cas de Millefeuille à plusieurs reprises.
Tout
il donne sa parole vis-à-vis de Léo, vis-à-vis de Loïc, pour ne citer que, mais il y en a d'autres,
oui.
Il ne tient pas.
Oui. Mais écoutez, ça fait partie. Bon, alors, je vais citer, sans le nommer, un lecteur qui m'a envoyé j'aurais pas dit ça, mais en même temps, j'ai trouvé ça très juste, de ce qu'on peut appeler, et je pense que ça concerne bien sûr tout le monde, des meurtres invisibles. C'est-à-dire que la rupture d'une promesse, ne pas tenir une promesse, qui peut être très importante pour quelqu'un, mais ne pas la tenir, c'est quelque chose de terrible. Et en même temps, c'est rien du tout. Tout le monde fait ça. Pourtant, c'est là. Et c'est quelque chose qui peut être très grave. Alors, au fond, d'une certaine façon, je me suis toujours intéressée à ce qui, dans le quotidien, l'ordinaire, la banalité, tout d'un coup, vraiment devient tragique ou terrible ou catastrophique ou vraiment mortel. Et là, bon, on a un exemple de ça. Alors, dans le livre, sans dévoiler complètement, en effet, le fait que Millefeuille ne tient pas sa promesse par rapport à deux jeunes complètement à la dérive a des conséquences extrêmement graves. Alors, on peut toujours dire, et bien sûr, on dit que il n'y a pas que lui là-dedans qui est responsable. Cependant, on peut aussi se dire qu'il y est un peu pour quelque chose. Et ça, c'est terrible dans la mesure où, à part ça, c'est quelqu'un d'extrêmement sympathique, accueillant, et etc., etc. Donc ça, je crois que c'est quelque chose auquel je tenais pour vraiment montrer comment la vie, la mort, c'est toujours sur un fil, d'une certaine façon. La vie, la mort de soi, mais la vie, la mort par rapport aux autres.
Alors, si vous me permettez, je vais prendre la défense de votre personnage.
Oui.
Parce que il donne sa parole, il ne tient pas toujours. Il accepte, par exemple, le chapitre de Léo, et pendant fort longtemps, il ne le lit pas délibérément, alors qu'il a promis. Mais quand il le lit, il ne sait pas quoi en dire. Il ne sait peut-être pas quoi en penser, mais il l'a lu. L'impression que j'ai eue, c'est que ce personnage, il est déjà sous l'emprise de la mort, puisqu'il n'a plus de parole à propos de ce texte. Et lui, c'est quelqu'un qui a passé sa vie, à la fois en tant que professeur, mais aussi en tant que sujet, à lire, et dans les textes. Le texte de Léo le laisse sans voix.
Alors, c'est formidable, c'est votre interprétation.
C'est mon interprétation.
Je ne sais pas si moi je le voyais comme ça, mais je pense que c'est absolument impossible. Tout à fait. En même temps, vous savez, des fois, il me semble, c'est une expérience que je crois est possible pour tout le monde, on vous donne quelque chose à lire et on ne sait pas, on se bloque, on ne sait littéralement pas quoi en penser. Ou même, ce n'est pas on vous donne quelque chose à lire, même. On lit un livre et on est devant, on ne sait pas du tout quoi en penser. Alors, ça peut être pour plein de raisons, plein. Ça peut être que c'est tout d'un coup, la langue vous devient étrangère, vous ne voyez pas ce que la personne raconte. Voilà, je parle d'un livre, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous ne comprenez pas. Et ça peut être pour des raisons alors plus complexes. C'est-à-dire, bon, là, je pense tout de même. Bon, c'est pas par hasard que Millefeuille n'arrive vraiment à rien penser par rapport à un texte écrit par un jeune homme qui commence sa vie. Et lui, en effet, va plutôt dans l'autre sens.
Oui.
Bon, donc c'est là. Je préfère le laisser presque indéterminé, ce qui veut en fait dire qu'il y a beaucoup de raisons. Beaucoup, je crois.
À l'instant, vous le suggérez, mais le terme est employé, l'adjectif est employé dans le livre. Millefeuille est en vieux de la jeunesse de Léo.
Oui.
Parce
oui.
que Léo a la vie devant lui.
Tout à fait.
Et Millefeuille, lui, a terminé sa vie.
Tout à fait. Mais vous savez, je crois que rien n'est plus bloquant, et alors là, c'est pour tout le monde, que l'envie. C'est un truc terrible. Quand on est envieux, et là, il a de bonnes raisons d'être envieux, si on peut dire, puisqu'il est vieux, il s'en va, et l'autre arrive, il est tout jeune. Mais quand on est envieux, et c'est quand même une chose extrêmement fréquente qui peut atteindre tout le monde, on est complètement bloqué. On devient souvent, réellement, assez stupide. On ne pense rien. Ou alors on pense des choses extrêmement méchantes, faciles, etc. Mais oui, oui, oui.
Et peut-être que la difficulté à laquelle est confronté Millefeuille, c'est de savoir finir. Or, précisément, c'est difficile de finir, et peut-être que c'est impossible de finir. Je dis cela parce que il y a ce passage qui me paraît très important. Il est écrit « Mais est-ce que Hamlet fait partie des rois? Est-ce qu'il faudrait que j'écrive sur Hamlet ?» se demanda Millefeuille. « Je n'en finirai jamais. Pourquoi en finir? Je n'ai aucune envie de finir. C'est impossible de finir. Quelle horreur finir! Quelle horreur ne pas finir! Finir, 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 c'est impossible de finir. C'est son problème.
Oui, tout à fait. Oui, oui, absolument.
Bon, alors, puisque Millefeuille se pose le problème de la fin à travers Hamlet, pouvez-vous justement nous dire un certain nombre de choses? Ce personnage est en train d'écrire un article à propos des rois chez Hamlet. Ce souci de
Shakespeare.
Shakespeare. Il s'interroge pour savoir si Hamlet est un roi ou pas. Pouvez-vous nous dire un certain nombre de choses sur son rapport à la souveraineté, au roi? Pourquoi les rois?
En fait, les rois, il écrit sur les rois, parce que au fond, finalement, j'ai en réfléchissant, en me posant des questions sur le personnage, en essayant de voir sur quoi il allait travailler, j'ai pensé que les rois étaient vraiment très proches de lui. Parce que chez Shakespeare, tous les rois ont, d'une certaine façon, des problèmes d'identité. C'est-à-dire, qui sont-ils? C'est-à-dire, plus exactement, qui sont-ils quand ils ne sont plus rois? Dans les pièces de Shakespeare, dans les tragédies, les rois passent leur temps soit à être dépouillés de leur royauté, soit à être obligés d'abdiquer, soit à être tués. Bon, bref, qui est-on quand on n'est plus roi? Et ça, mine de rien, c'est en fait une question qui concerne tout le monde, c'est-à-dire, justement, les rois, chez Shakespeare, c'est sur une grande scène historique, etc. Mais au fond, c'est des gens comme vous et moi, en ce sens qu'ils vivent des choses qu'on peut vivre. Alors, qui est-on quand, par exemple, on n'a plus de fonction sociale? Bon, notre époque connaît la retraite. Bon, qui est-on quand, comme Millefeuille, on a été professeur et on n'est plus professeur? Comment peut-on rester parmi les vivants quand on ne travaille plus comme on le faisait? Bon, enfin, c'est des questions qui sont là, c'est-à-dire, et qui évidemment viennent relancer la question, qu'est-ce qu'un homme? Qui est cet homme? Qui est-il pour lui-même? Quand il perd ses attributs sociaux faciles à repérer, etc., la couronne, le sceptre, etc., ou la chaire à l'université, si c'est ça, ou le, etc., etc., etc. Bon. Et ça, je crois que c'est... Et ce qui me... Bon, alors, moi, je lis... je ne suis pas du tout une connaisseuse énorme de Shakespeare, mais c'est vrai qu'il y a des pièces que je lis et que je relis, et j'ai toujours trouvé que Shakespeare était extrêmement proche de nous, parce que en fait l'époque de Shakespeare, c'est une époque de crise où tout se chamboule, vraiment. On sort du Moyen-Âge, on est dans la Renaissance, mais enfin bon, tout ça se met en place, et d'une certaine façon, bon, ben, on est un peu comme ça. Enfin, c'est pas le Moyen-Âge et la Renaissance, mais on est dans une période vraiment de transition, de crise sociale, mais aussi politique et aussi des valeurs, etc., où on ne se repère pas forcément. Et donc, je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont très proches.
En vous écoutant, vous expliquez le questionnement de Millefeuille. Qu'est-ce que c'est qu'un roi? Qu'est-ce que c'est qu'un roi qui a perdu sa couronne et son sceptre? En vous écoutant, j'ai eu à l'esprit ceci. Millefeuille, c'est un roi qui se meurt.
Oui, c'est un roi qui se meurt, mais il est socialement, s'il s'était laissé faire, on peut dire ça pour aller très vite, s'il ne s'était pas donné comme tâche d'écrire et de travailler tous les jours, etc., il est presque déjà mort, puisque par exemple, il n'enseigne plus. Bon, donc, je crois que c'est ce qui, moi, m'a semblé aigu, c'est comment il se bat contre ça. Comment il fait pour se battre contre ça.
Oui, alors c'est un roi sans divertissement ou en quête de divertissement, peut-être. Oui. Parce que il me semble qu'il est difficile de lire votre roman sans avoir en tête le roi se meurt.
Oui. Non, mais c'est absolument. On peut tout à fait le prendre comme ça.
D'autant que c'est raté. C'est raté.
Oui.
L'amène du côté, on va dire, du mal, au sens où Bataille parle du mal.
Oui. Ou de du meurtre.
Du meurtre,
dire.
Absolument.
Pour rester dans Shakespeare, du meurtre. Un petit meurtre.
Un petit meurtre, mais un meurtre. Il me semble, notamment à la fin du roman, votre personnage se trouve dans la situation de Macbeth.
En tous les cas, c'est vrai que il est débordé par ses questions et son angoisse. Les spectres sont là. Et c'est vrai que après l'épisode avec Loïc et Christelle, il a un épisode où il voit des fantômes partout, peut-être à raison, puisqu'il y est pour quelque chose. Certainement.
Alors peut-être justement sur la question de cette souveraineté, est-ce que de la part de cet homme qui est un intellectuel, qui a passé toute sa vie à essayer de penser son rapport au monde, qui a une très vaste culture, qui n'est absolument pas amoindri malgré son âge.
Très important.
Très important, cela. Il est en pleine possession de ses moyens. Bon. Qu'est-ce qu'il éprouve ou comment peut-on expliquer ces passages à vide? C'est-à-dire, ce qui m'a frappé dans le texte, c'est les épisodes où il cherche ses mots, où il donne l'impression, je ne dis pas de ressasser, mais de répéter les mots, les expressions, souvent. Et puis, aussi, d'ailleurs, son fils le lui dit, il aligne les banalités. Une sorte de sujet qui n'est plus en position de penser, alors qu'il a passé sa vie à penser.
Ça, c'est-à-dire, disons que pour moi, je crois qu'avec Millefeuille, ce que j'ai voulu montrer, c'est que c'est quand même quelqu'un, comme vous dites, c'est un intellectuel, mais disons que c'est quelqu'un qui pense tout le temps, y compris d'ailleurs quand il ne pense pas. On peut presque dire ça, y compris quand il dort. Mais ça me paraît quelque chose que tout le monde peut aussi éprouver. C'est-à-dire, la pensée, ce n'est pas des grands trucs, des grandes idées, etc. C'est aussi des choses, tout le temps en train de se dire, je vais ici, je vais là, je réfléchis, j'essaye de comprendre. Enfin, bon. Et lui, il est vraiment là-dedans. Alors, les passages à vide, je crois que, en tous les cas, moi, je peux dire que c'est quelque chose que j'éprouve. On peut avoir des passages à vide complet. Je crois que c'est aussi souvent, peut-être je l'ai transposé là, quand on a trop d'idées dans la tête au même moment, quand on est trop plein, et que d'ailleurs ça devient angoissant, et là d'ailleurs, paradoxalement, même si lui il est vieux, c'est souvent le fait de très jeunes gens qui ont beaucoup d'idées en même temps dans la tête, et on ne sait pas quoi en faire. Alors, d'ailleurs, on peut faire même des bêtises pour ne pas penser toutes ces idées. Mais quelque chose comme trop d'idées. Ça, je crois que c'est... Voilà. Donc, pour moi, c'était vraiment quelqu'un qui... Peut-être c'est ce qui, d'ailleurs, le prend à la gorge. Il ne peut pas s'arrêter de penser. Même quand il a des passages à vide, il le sait. Enfin, il le sent.
Oui, d'ailleurs, là aussi, à la fin du roman, il est dit qu'il a la tête encombrée.
Oui, tout à fait.
Il y a trop de choses.
Il y a trop de choses.
Trop de choses. Il a la tête encombrée.
Trop de choses. Qu'il ne peut pas, peut dire, traiter, même si c'est un mot, ou gérer. Il dit, je déteste ce mot, mais justement, je l'emploie. Bon, là encore, c'est comme s'il avait cette idée et qu'il veut repousser, mais il ne peut pas.
Alors, si vous me permettez, il me semble que ce livre, notamment... nous rappelle à nous lecteurs que écrire c'est lire. Et à bien des égards, en écrivant l'histoire de Millefeuille, vous nous mettez en position de relire Shakespeare, parce que Millefeuille relit Shakespeare.
On peut, si on veut.
Si on veut.
Oui, ben ça c'est sûr, bien sûr. C'est-à-dire, c'est vrai que, bon, quand j'ai relu en écrivant Millefeuille Le Roi Lear, et que je suis tombée, ça doit être tout au début, sur ce que je dis d'ailleurs dans le livre, « Age is unnecessary », trois mots. Le grand âge n'est pas nécessaire, le grand âge est de trop. Donc c'est absolument incroyable de penser que Shakespeare a opéré cette condensation, c'est-à-dire de dire que les vieux, les gens vieux, les gens trop âgés sont de trop. Enfin, évidemment, c'est dit par quelqu'un d'autre. Bon, enfin, c'est dit par Lear, mais en se mettant dans la tête de quelqu'un d'autre. C'est terrible, c'est absolument terrifiant. Et le génie de Shakespeare, c'est vraiment de faire, avec trois mots, poser toute la question de qu'est-ce que c'est que des êtres humains qui seraient en trop. Alors Millefeuille dit, il a bien raison de le dire, que c'est une question qui est apparue à notre époque, puisque des gens ont été considérés comme superflus, et il y a eu l'extermination, ou la tentative d'extermination des Juifs, mais enfin, ce n'est pas la seule tentative d'extermination de peuple. Bon, mais d'une certaine façon, c'était déjà pointé, il y a des catégories de gens qui sont en trop.
Oui. Alors, si vous me permettez, il y a un passage de votre roman qui m'a beaucoup bouleversé. Page 165. Il remonta chez lui et tourna un peu dans l'appartement. Il n'avait pas sommeil. Il avait en tête la phrase « C'est toujours les autres qui meurent ». Il n'arrivait pas à s'en débarrasser. Il finit par se mettre au lit et il s'endormit en feuilletant un livre sur les pyramides. Il fit un rêve où il se voyait avec un professeur qu'il avait beaucoup aimé, un professeur de littérature anglaise. C'est avec ce professeur qu'il avait commencé à lire Shakespeare. Dans son rêve, il lui demandait si les œuvres sauvent. Il se rappelait en même temps dans le rêve qu'il avait réellement posé cette question. Et le professeur lui répondait « Elles ne sauvent pas, mais elles consolent. Nous sommes les fils de nos œuvres nous enseignent, nous protègent, nous consolent comme des parents ». Et dans le rêve, Millefeuille, intrigué, se disait « Je suis intrigué ». C'est terrible pour lui. Il travaille l'œuvre de Shakespeare, il écrit, et sa lecture de Shakespeare ne le console pas quant à sa fin.
Ne le sauve pas. Bon, peut le consoler un peu, mais ne le sauve pas. Mais ça, je crois que le professeur qui lui a dit ça avait raison, c'est-à-dire rien ne sauve au sens où, de toute façon, il y a une échéance, ne sauve de la mort, de la limite, mais l'œuvre, quand elle est faite, c'est vrai qu'elle est comme... Bon, elle console, elle peut consoler.
Bon, voilà, mais est-ce que peut-être Millefeuille, je ne vais pas dire qu'il lui manque quelqu'un auprès de lui, parce que... cette personne est là, elle est présente, mais elle est source d'angoisse. À la différence des rois, il lui manque un fou. Les rois avaient des fous. Et il est dit dans le livre, très justement, que la fonction du fou, c'est de rappeler au roi qu'il est mortel. Ernest joue un peu ce rôle.
Oui, c'est ça, j'allais dire ça.
Mais il est source d'inquiétude pour...
Oui, mais c'est-à-dire... Mais ça, c'est comme d'ailleurs dans Shakespeare. Les fous, disons, les rois... choisissait des fous et leur demandait. Le fou avait le droit de totale liberté, il pouvait dire vraiment tout ce qui lui passait par la tête. Évidemment, des fois, le roi trouvait ça un peu exagéré. Et évidemment, le fou avait une espèce de risque à courir d'aller jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il pouvait aller vraiment plus loin? Bon, ça dépendait des contextes, des rois, etc. Millefeuille, c'est un peu pareil, en un sens, puisqu'il aime beaucoup Ernest, qui lui rappelle, et ça c'est, évidemment j'ai un peu fait exprès, mais c'est comme souvent les gens comme ça, qui lui dit vraiment des choses vraies, et même d'une certaine façon, presque un peu, il est très, enfin il dit, il a un certain don de la divination, il devine des choses, Ernest, qui sont en train de se passer, comme des gens... Ça peut arriver, bon, enfin, tout le monde en connaît, moi j'en connais, qui devinent vraiment. Mais ils ont une espèce de sens tellement aigu du réel qu'ils peuvent vraiment savoir ce qui vient de se passer, qu'ils n'ont pas vu, mais ils peuvent le deviner. Mais en même temps, Millefeuille à la fois recherche la compagnie d'Ernest et bon, le tient quand même à l'écart parce que, évidemment, c'est quand même très angoissant, quelqu'un qui peut vous dire votre vérité.
Et qui le fait parfois sans ménagement, quand Ernest interpelle à plusieurs reprises Millefeuille en considérant qu'il est un gamin, qu'il a un comportement d'enfant. Ce qui est intéressant parce qu'il y a le renversement de position. Millefeuille, par rapport à son fils Jean, se trouve dans la position inverse vis-à-vis d'Ernest.
D'Ernest, oui, absolument.
Bon. Alors, peut-être avant de nous tourner vers l'assistance et le public, je voudrais vous entendre sur une dernière chose. Vous écrivez ceci. La mort pourrait être un objet de curiosité. Je suis curieux de voir ce qui va se passer. Qui disait ça ? Mon amie Françoise, avant de partir. Est-ce que je suis curieux ? Je sais très bien que je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit. Mais je ne veux pas qu'on m'oublie. Pourtant, je ne serai pas là, alors. Oui, mais je veux mourir sans regret. Sans regret, c'est quoi ? Est-ce qu'on peut mourir calme ? Non. On meurt toujours furieux.
Ben ça, c'est Millefeuille qui dit ça. Hein.
Oui, mais... je n'en doute pas, mais... Comment peut-il éprouver cela, ce personnage ?
Ça, je crois que lui, il l'éprouve. Maintenant, je ne sais pas si je suis forcément d'accord avec lui. Est-ce qu'on meurt vraiment toujours furieux ? C'est lui qui le dit.
Il y a parfois parmi nous des gens qui connaissent le bon passage. Certains connaissent le bon passage. Mais
peut-être. Peut-être. Et quelles sont les conditions pour ça ? Mais ça, c'est chacun y pense et chacun... Je ne sais pas. C'est-à-dire que... Quand même, Millefeuille, encore une fois, a des ratés du côté à la fois de sa filiation avec son fils et de la transmission, qui sont tout de même deux façons, je ne dis pas absolues, mais tout de même, de faire avec la question de la mort, de la limite. C'est-à-dire la limite, elle est là pour tout le monde. Peut-être on arrive à en faire quelque chose qui rend la vie plus vivante. Ou peut-être c'est l'horreur et la perte et la fin sans fin, etc. Ça, c'est une question ouverte.
Madame, nous vous remercions beaucoup pour votre générosité, pour votre présence. Et je remercie le public et je l'invite à vous lire. Merci beaucoup.
Merci
à très bientôt à la Galerie Mola.
Merci.